Vous êtes sur RTL.
Midi pour aller plus loin, Yves Daudigny, sénateur socialiste et président d'une mission d'information parlementaire sur la pénurie de médicaments et de vaccins. Bonjour.
Bonjour.
Comment en est-on arrivé, monsieur Daudigny, à une telle situation de rupture de stock ou de médicaments sous tension ?
Cette situation est ancienne, elle s'aggrave actuellement sans que l'on ait parfaitement conscience. Et nous-mêmes, donc sénateurs qui avons l'habitude de travailler sur ces sujets, c'est lors des études et des auditions pour la réalisation de la mission que nous avons mesuré à la fois l'ampleur et la gravité du phénomène.
Mais quelle cause ?
Alors les causes, elles sont liées à une chaîne d'approvisionnement du médicament qui est à la fois longue et complexe, qui conjugue des impératifs technologiques avec des impératifs économiques, avec également des besoins de sécurité. Et il suffit que, et de qualité, et il suffit qu'à un endroit de cette chaîne, un incident se produise pour que, à l'extrémité de la chaîne, le médicament ne soit plus disponible pour les patients. Ce sont surtout des anticancéreux, des médicaments qui sont utilisés à l'hôpital, des anesthésiants, des vaccins, des anti-allergiques qui, à un moment donné, sont indisponibles soit à l'hôpital, soit indisponibles dans les pharmacies d'officine.
Alors, votre mission d'information parlementaire a préconisé 30 recommandations. Comment, notamment, relancer la production pharmaceutique de proximité ? C'est l'une de vos priorités.
Alors, nous suggérons que le gouvernement français, dans ses plans de développement économique, inscrive comme action prioritaire la relocalisation donc de production pharmaceutique, l'implantation en France de laboratoires. Alors, cette mesure dépasse complètement le cadre de la mission, mais nous souhaitons qu'elle puisse être prise en compte directement par le ministère de l'économie et par le gouvernement.
Cette mesure, vous pouvez l'entendre, ne peut convenir aux malades qui sont tout de suite dans l'attente de leurs médicaments.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, nous leur disons que l'intérêt de la mission que nous avons menée, des campagnes d'information aujourd'hui, c'est une prise de conscience plus forte. Certainement, le phénomène était aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sous-estimé par les pouvoirs publics. Et nous souhaitons vraiment que la ministre et le gouvernement prennent en compte ce nouvel impératif qui est celui de la disponibilité du médicament.
Oui, parce que Yves Daudigny, il y a quand même urgence pour certains malades.
Il y a tout à fait urgence et nous mesurons les conséquences en matière de santé publique, les pertes de chance pour les médicaments, pour les patients hospitalisés, l'angoisse qui peut résulter pour les patients qui ne trouvent pas le médicament à la pharmacie. Oui, il y a urgence à agir, bien sûr.
Merci Yves Daudigny d'avoir été l'invité de RTL Midi.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et 43 minutes sur RTL. Emmanuel Macron félicite Jair Bolsonaro, le premier président brésilien d'extrême droite, élu hier, 30 ans après la dictature. Mais le chef de l'État français insiste ce midi sur le respect des principes démocratiques. Marine Le Pen, elle, souhaite bonne chance au nouvel élu. Quand La République En Marche et les partis de gauche, eux, s'inquiètent de cette nouvelle percée des conservateurs. Le gouvernement brésilien sera nommé en janvier prochain avec des généraux et des ultralibéraux au poste clé. Ça tangue aussi en Europe. Angela Merkel doit s'exprimer cet après-midi. La chancelière allemande exerce actuellement son dernier mandat. Elle l'annoncera, tout comme elle précisera son intention de quitter la présidence du Parti chrétien-démocrate, la CDU. Blandine Milsan, l'avenir d'Angela Merkel a basculé avec le vote sanction hier contre la grande coalition dans le petit land de l'Ais.
Oui, voilà, il y a eu un premier revers il y a 2 semaines en Bavière, et puis cette claque électorale hier dans la Hesse. Même si la CDU-CSU va continuer à gouverner ces deux Länder, ces deux élections régionales ont sanctionné durement le camp conservateur qui, à chaque fois, a perdu plus de 10% des voix. Alors Angela Merkel, en proposant de renoncer à la présidence de la CDU, mais tout en continuant bien sûr à être chancelière jusqu'à la fin de son mandat, cherche à désamorcer les critiques qui sont de plus en plus fortes à son égard. Ça fait quand même 18 ans qu'elle est à la tête de la CDU. Ce matin encore, un député de CDU lui demandait un concept pour retrouver la confiance de l'électorat. Le ministre-président de la S, qui est pourtant un proche, avait même qualifié hier cette élection de signal d'alarme pour la CDU et pour sa présidente. Donc la chancelière cherche à stabiliser la situation. Pas sûr qu'elle y arrive, d'autant qu'en face, son partenaire de coalition, le SPD, est également très fragilisé par cette élection dans la Hesse. Certains au SPD réclament de quitter rapidement ce gouvernement de grande coalition qui a été sévèrement sanctionné hier par ce scrutin dans la Hesse.
Blandine 1100 à Berlin pour RTL. En France, les petits transporteurs de Haute-Savoie ouvrent le bal. Le 17 novembre prochain est prévue une journée de blocage des routes pour protester contre la hausse du prix du carburant. Mais déjà, entre Thonon-les-Bains, Annemasse et Annecy, ce matin, une opération escargot était organisée, Serge Puyot.
La quarantaine de camions participant à l'opération escargot est arrivée bruyamment vers 11h à l'entrée d'Annecy. Sébastien dirige une petite entreprise de transport avec 4 salariés et 4 camions.
On a marre de se faire taxer. En une année, on a pris bientôt 25 centimes sur le gasoil, c'est bon, c'est plus tenable. Quand on sait que tous les jours on met 500-600 litres de gasoil dans les camions, bah les 20 centimes qu'on a pris, ça fait mal. Hein. Donc aujourd'hui, on manifeste notre colère. Ouais. Et je pense que c'est que le début en France. À force de nous taxer, on pourra bientôt plus travailler, c'est tout. Il y a forcément des entreprises qui seront obligées de licencier. Ça va forcément créer des dégâts, mais je pense qu'il n'y a pas assez de chômeurs en France, ils n'ont pas compris.
Anthony Andolina, le transporteur de Haute-Savoie qui a lancé le mouvement, espère qu'il fera boule de neige.
Je lance un appel donc à toutes les entreprises, transport, TP, tous les professionnels de la route qui sont concernés par nos revendications. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous manifester en France et mobilisez-vous. On veut peser sur le gouvernement, à leur dire, nous on en a marre, c'est stop et il faut trouver une solution.
Une délégation est actuellement reçue à la préfecture de Haute-Savoie par la directrice de cabinet du préfet.
Serge Puyot à Annecy pour RTL. Conseil de classe à Matignon ce matin. Édouard Philippe a organisé un séminaire gouvernemental pour faire le point sur les réformes en cours. Impôts à la source, retraite, service national, universel, statut des fonctionnaires. Armelle Lévy, le gouvernement veut notamment installer le TripAdvisor des services publics.
Oui, et vous pouvez noter dès maintenant votre service des impôts, votre caisse de sécurité sociale, votre préfecture, votre commissariat ou gendarmerie. Les premiers résultats de la qualité des services seront publiés dès la fin de l'année. Et dès l'an prochain, les douanes, mais aussi les collèges et lycées afficheront leurs performances. Le mot d'ordre, c'est la transparence. Édouard Philippe veut rapprocher les concitoyens de leur administration. Aujourd'hui, 83% des Français ont le sentiment que les responsables politiques sont loin de leurs préoccupations quotidiennes.
Nos concitoyens attendent que l'État fonctionne mieux. Ils veulent un État qui soit capable d'entendre ce qu'ils ont à dire. Ils veulent un État qui soit capable d'être efficace dès lors qu'il a fixé des priorités, qui soit capable d'atteindre les objectifs qu'il s'assigne. Bref, ils nous demandent de transformer l'action publique.
Ce qui signifie aussi une transformation profonde de la fonction publique et des missions des fonctionnaires. Ce baromètre de la confiance sera mis à jour tous les ans pour mesurer les progrès et identifier les attentes des Français.
Armelle Lévy du service économie de RTL. Et puis cet après-midi, le Premier ministre se penche sur la création de la collectivité Alsace. Édouard Philippe reçoit les élus du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avant l'annonce de ce super département alsacien dimanche à Strasbourg par Emmanuel Macron. Demain matin, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera l'invité de RTL et invité d'Elisabeth Martichoux à 7h40. Il répondra aussi à vos questions à partir de 8h20. Une pause et dans un instant, les constructeurs automobiles appelés à mettre au pot pour la prime à la casse.
RTL Midi. RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Les constructeurs automobiles doivent-ils participer au financement de la prime à la conversion? Vous savez, cette prime qui est versée lorsque vous achetez une voiture plus propre, moins polluante. Elle est un succès. D'ici la fin de l'année, environ 250 000 personnes en auront profité. 1 000 à 2 500 euros et ça sera encore plus l'année prochaine pour les voitures électriques, mais aussi les hybrides rechargeables, neuves ou d'occasion. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et celui de la transition écologique François de Rugy reçoivent cet après-midi midi les constructeurs. Avec nous, Yves Cara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club Association. Est-ce que vous partagez l'avis du gouvernement? Est-ce que les constructeurs automobiles doivent mettre la main à la poche?
Alors, je ne suis pas porte-parole des constructeurs automobiles, mais il faut dire qu'ils investissent déjà massivement pour l'électrique, pour l'autonomie, donc c'est des gros investissements. Donc, qu'ils mettent la main à la poche et qu'ils payent, peut-être qu'ils vont le répercuter après sur les acheteurs de voitures ou sur les pièces détachées. Donc, je dirais plutôt que de l'argent, il y en a, hein, de la route, ça rapporte entre 35 et 40 milliards la route, donc peut-être qu'on peut quand même trouver dans ces 40 milliards de quoi payer la prime à la conversion.
C'est-à-dire que pour vous, il y a d'autres acteurs qui devraient...
Pas d'autres peut-être. Acteurs, mais l'argent récolté déjà par la route. Oui, il y a de l'argent, devrait directement bénéficier, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, mais emporté par son succès, il faut trouver de l'argent à côté. Alors c'est plutôt bien, mais je pense que la route en rapporte suffisamment, on peut prendre là-dessus.
Parce que la prime va donc augmenter l'année prochaine?
Oui, augmenter et puis s'étendre aussi aux hybrides rechargeables d'occasion, ce qui est vraiment une très bonne chose parce que l'hybride c'est une vraie bonne solution, même si c'est cher effectivement, donc cette prime à la conversion va aider, mais c'est vrai que dans des trajets du quotidien, si on peut recharger sa voiture et si on sait conduire une voiture électrique, parce qu'on doit apprendre à conduire.